Marie et Madeleine qui s'étaient rendues au tombeau de grand matin. Comme nous, 10h du matin, c'est tôt pour ceux qui ont participé au baptême dans la veillée pascale hier soir. Ils sont terminés à minuit. Voilà, deux adultes qui ont demandé le baptême, c'est une très très belle célébration. Et donc, on s'est levé tôt ce matin. Comme les prêtres disent, le dimanche de Pâques, le Christ ressuscite et les prêtres meurent. C'était une très belle célébration, voilà. Magnifique de voir des personnes d'âge mûr qui cheminent et qui cherchent du sens dans leur vie et puis qui le trouvent dans le Christ. Et le baptistère qui est là est encore signe de ce baptême hier soir. La résurrection. Donc Marie-Madeleine sera au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle a cheminé avec Jésus quand même pendant 3 ans. Et il ne cessait de dire, il faut que le Christ souffre sa passion, qu'il donne sa vie pour ressusciter. Elle l'a entendu, mais elle ne savait pas, les disciples non plus, à quoi correspondaient ces paroles. C'était mystérieux. Oui, Jésus utilisait des verbes connus. Il utilisait 3 verbes. En hébreu, il y a le verbe « malé », « kala » et « kom » qui ont été traduits par « ressusciter, s'accomplir, s'achever ». Il y a l'idée d'évolution. Ressusciter, c'est pas seulement... c'est pas une réanimation comme Lazare, c'est pas ça. C'est pas ça. La résurrection, vraiment, c'est se relever pour s'accomplir, pour s'achever. C'est pour cela qu'il y a l'idée d'évolution, d'anthropogénèse, comme disait Teilhard de Chardin, une anthropogénèse. L'homme s'accomplit. On est entre Néandertal et puis un accomplissement. Alors, Néandertal, ça peut dépasser, mais enfin, voilà, on est en chemin vers un accomplissement. Et c'est cela que le verbe « comme » veut dire, qui a été traduit par « anesthésis » en grec « résurrection ». C'est l'accomplissement de l'humain. C'est l'advenir de l'humain. Mais pas seulement de l'humain, il y a une cosmogénèse en même temps. Le cosmos est en train d'évoluer. Et quand Marie se rend compte que Jésus n'est plus dans le tombeau, elle dit « la pierre a été enlevée ». On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Ce n'est pas une affirmation de foi, c'est une constatation. Et elle dit « et nous ne savons pas où on l'a déposé ». Donc, c'est très agnostique, en fait. Nous ne savons pas. Ce n'est pas une expression de foi. Mais elle va le dire aux apôtres. Et les apôtres veulent constater. Donc ils courent. Pierre court. Jean est plus jeune, il court plus vite. Il arrive au tombeau, Pierre constate. Et Jean, il vit et il crut. Pourquoi ? Parce qu'il fait le lien avec les mots que Jésus avait posés sur ses gestes, sur ses actes pendant sa vie. Et Jésus avait prédit, il avait dit à plusieurs reprises, que ça ne finirait pas comme ça. Ça ne finirait pas avec la mort. Il faut qu'il souffre sa passion, qu'il donne sa vie par amour pour ressusciter, pour l'achèvement de l'humain, l'advenir de l'humain. Donc il l'avait dit, mais c'était resté mystérieux. Et là, il fait le lien, il dit, il s'est passé quelque chose. Après, c'est la communauté chrétienne des disciples qui, et on en a des traces dans les récits de la première lecture, qui fait l'expérience, c'est les Actes des Apôtres, qui dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, le 3e jour, il lui a donné de se manifester. Non pas à tout le peuple, mais à des témoins privilégiés. C'est le verbe grec « ofte » qui dit « il s'est fait voir, il s'est manifesté, Il a manifesté qu'il est vivant. Alors comment ? Pas comme une personne réanimée, non. C'est pas Lazare, non. On l'aime bien Lazare. Mais c'est pas Lazare, non. Lazare est mort ensuite, non. Là, c'est vraiment étrange. C'est que la communauté est réunie dans le Cénacle. Ils se rappellent ce qu'ils ont vécu avec Jésus, ses paroles, etc. Les portes sont verrouillées parce qu'ils ont peur, hein, parce qu'ils sont quand même un peu à risque. Ils font partie du groupe de Jésus. Et les portes sont verrouillées. Et il se manifeste dans le Cénacle, dans cette maison. Alors les disciples, dont Thomas et les autres, disent « c'est pas possible, c'est un fantôme, on a mal dormi. On a dormi un peu trop peu cette nuit, donc on voit des choses. » Et Jésus, le Christ, leur montre ses plaies pour dire l'identité avec celui qui est mort par amour. Et il mange avec eux, et il les prie de toucher ses plaies. C'est bien lui. C'est dans notre dimension humaine que ça a lieu, mais c'est un événement qui dépasse l'entendement humain. Nous sommes dans une texture, hein, physique, texture aussi mentale, hein, une texture de texte, c'est textile. Mais il y a des brèches, il y a des mailles entre cette texture qui porte le monde. On le voit bien quand on interprète des textes ensemble, on voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Il y a quelque chose qui est plus grand que la texture. Il y a quelque chose qui passe à travers la texture. On le voit bien aussi quand on apprend à aimer. L'amour, hein, fait devenir des choses, transforme des personnes et des choses dont on n'avait pas idée auparavant. Et c'est pour cela que nous sommes aussi nés et vivants. C'est l'amour qui a généré cette anthropogénèse, hein, c'est sûr. On n'y serait pas autrement. Bon, il y a quelquefois pas que l'amour, mais l'amour transforme les personnes, transforme le physique. L'amour transforme. Eh bien, les disciples font l'expérience que, avec Jésus, le Christ, hein, qui a donné un sens à sa mort avant sa mort, hein, le sens de l'amour, l'amour qui va jusqu'au bout du don, il y a une brèche, des mailles ouvertes vers une vie qui va vers une plénitude. Et Jésus, selon les disciples, réunis dans le Cénacle, s'est manifesté, ofté, il s'est fait voir. Mais les portes étaient verrouillées. Scientifiquement parlant, ça ne s'explique pas, c'est inexplicable. Mais il y a quelque chose qui dépasse, qui déborde et qui survient de plus profond que tout ce que l'on connaît de la matière. Mais pourquoi pas ? C'est bien ce que Marie-Madeleine dit, j'y comprends rien, on a enlevé le corps du Seigneur, on a enlevé la pierre. Et c'est par la suite que, faisant le lien avec ce qu'il disait, qui s'est toujours vérifié parce que c'était un homme authentique dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux autres, qui envisageait l'avenir de l'humain, qui envisageait l'accomplissement humain dans sa personne, mais un accomplissement qui va au-delà de ce que l'on peut prévoir. Hein, malé, c'est plénitude en hébreu. Kala, c'est une réalisation qui va vers un achèvement. Et comme, c'est se relever vers plus grand que tout ce que l'on existe, que l'on connaît. Quelque chose qui nous dépasse, qui va bien plus loin, mais dont nous ne pouvons pas être à l'origine. C'est la critique, vous savez, parmi les Juifs. Quand on va en Israël, c'est très intéressant parce que ce peuple est marqué par cette idée d'un advenir et d'une ère messianique, de quelque chose qui va venir, de quelque chose de beau qui sera marqué par l'amour, la justice et l'amour, quelque chose qui va advenir. Pas tous les Juifs ne pensent que cela adviendra dans une personne singulière. certains le Christ. Certains pensent que ça adviendra dans une communauté, dans un peuple, et donc on attend une ère messianique. Mais il y a de vives critiques, aujourd'hui encore, entre juifs, par rapport à cet advenir. Est-ce que ça adviendra dans notre temps ou ça adviendra après la mort? Ça, pas tout le monde n'est d'accord. Est-ce que ça adviendra par nos propres forces ou par un don? Alors beaucoup disent, Marx, qui avait des racines juives, il a voulu faire venir l'ère messianique avant le temps, par les propres forces humaines, une ère de justice. Mais c'est pas rien, l'intention était des meilleures. Mais est-ce que nous pouvons forcer le destin? Et beaucoup de juifs en Israël disent non, on ne peut pas le forcer, parce que c'est un don qui vient d'ailleurs, un don que nous ne maîtrisons pas. Alors il y a d'autres juifs qui disent, alors on les voit, les Chacham à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim, qui critiquent vivement l'État d'Israël, parce qu'ils disent, l'État d'Israël se prend pour le Messie, mais le Messie n'est pas une force humaine autogérée. Le Messie sera don, l'ère messianique sera un don de Dieu. Et donc chaque fois qu'on essaye de prendre possession du temps, de maîtriser les choses pour faire advenir le Messie, c'est une idole. Et donc, il condamne l'État d'Israël comme étant une idole. Il faut le savoir, les Juifs, ils sont très critiques. C'est ce qui a fait des prix Nobel, certainement, parce que quand on se réveille le matin et qu'on critique tout, eh ben, on avance, scientifiquement aussi, on avance, parce qu'on questionne les choses et on avance. Voilà. Eh bien, ils disent, non, mais c'est une illusion du gouvernement israélien. Le Messie sera donné, ce sera une ère qui sera donnée par l'amour, ce sera une transformation de nos communautés, une transformation de la société qui sera un don de Dieu. Les chrétiens, nous sommes nés du monde juif, et les chrétiens croient que cette évolution, elle est déjà en acte dans la personne, dans ce qui est advenu dans la personne de Jésus, parce qu'il l'avait dit. Et ils font le lien, l'interprétation, à partir de ce qu'il avait dit. Quand Marie-Madeleine voit que le tombeau est vide, elle pense d'abord qu'ils ont enlevé le Seigneur. Pierre court, il fait la constatation, il ne voit pas plus que ça. Pépère, comme d'habitude, Pierre. Mais Jean, qui était habité par les interprétations de Jésus, il regarde, il croit et il voit. Et la communauté chrétienne, dans les récits de la résurrection, c'est des gens qui ne pensaient pas à cet avenir. C'est des gens qui voulaient rester tranquillement en Galilée, à Jérusalem. Ce sont des gens qui étaient peureux, ils s'enferment, ils fuient devant la croix du Christ, ils ne restent pas là. Ce sont des gens qui vont être transformés par la rencontre avec le Christ vivant, par des signes qu'ils interprètent, mais des manifestations claires qu'il est vivant, qu'il est là, et ce sont des gens qui vont comprendre que le sens de la vie, c'est de se donner dans l'amour, jusqu'au bout de l'amour, et qui, pour le coup, après la Pentecôte, va voir, ils partent vers l'Inde, ils partent vers Rome, ils partent vers l'Arménie actuelle, ils partent vers les pays de la Méditerranée, et là, ils vont donner leur vie pour ce témoignage, pour dire qu'ils l'ont rencontré, le vivant, qu'il est vivant, et qu'ils le rencontrent à chaque fois qu'ils célèbrent l'Eucharistie. Il est vivant à travers les signes de la fraction du pain. Ils donnent leur vie pour cela. Sont-ils fous? Faut-il un brin de folie pour vivre dans la vie et trouver du sens? J'opterai plutôt pour ça. Un brin de folie dans la vie, de l'ordre du don de l'amour. Sinon, c'est quand même difficile à expliquer. Et nous vivons, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour entrer dans le mouvement du ressuscité. C'est un mouvement, c'est une dynamique de vie qui, nous le croyons, va plus loin que tout ce que l'humanité peut imaginer et qui est déjà présente, qui est déjà un moteur, un réacteur, en marche, dont on découvre par l'Eucharistie la crête du volcan.